おかしい、おかしい。おかしい。
Bonsoir. Trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, arrivée de la dépouille mortelle de Jano Bemba Saolona. Le corps du sénateur Jano Bemba Saolona est arrivé hier jeudi à Kinshasa en provenance de Bruxelles. Poursuite du séjour du procureur de la Cour pénale internationale Luis Moreno Ocampo en Ituri, en province orientale. Et toujours en province orientale. Nouvelles attaques de la LRA mardi dernier dans la localité des Bayoulé, dans les bas Ouélé, bilan, 80 personnes enlevées et les biens d'une chapelle catholique pillés. Trois confrères sont avec moi pour en parler. Il s'agit d'Emmanuel Moukadi, secrétaire des rédactions au magazine international Loubila, un mensuel paraissant à Kinshasa et distribué dans beaucoup de pays du monde. Nous avons aussi Innocent Kaboukala, il est directeur des programmes et informations à Global Télévision. Et enfin, Albert Kambalé, correspondant de l'agence France Presse à Goma, au Nord Kivu. Mais d'abord, pour voir comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes de ce soir, on écoute la revue de presse avec Kelly Nkouté.
Bonsoir. L'arrivée du corps de Papa Bemba ce jeudi à Kinshasa est l'un des sujets qui font la une des journaux parus à Kinshasa. Le palmarès note par exemple Jano Bemba, un retour au pays grandiose et digne d'un grand homme. De la majorité à l'opposition, en passant par l'homme de la rue et l'opérateur privé, la démangeaison brûle toutes les lèvres. Pour sa part, Congo News, notre journal qui commente le rapatriement du corps de Jano Bemba écrit « Toutes les morts n'ont pas le même sens ». Celle de Jano Saolona a donné lieu à une apothéose significative de l'emprise du fils Jean-Pierre Bemba sur la ville de Kinshasa, réputée acquise à l'opposition. Combien de personnes ont fait le déplacement? 1 million de personnes, indique Congo News, et d'ajouter, la dernière fois qu'il y a eu tant de monde dans les rues de Kinshasa, c'était à la gloire du fils, à la veille de la clôture de la campagne électorale. Autre sujet commenté cette semaine, c'est la visite du procureur de la CPI en Ituri. Le phare prend les premières déclarations de Luis Moreno Ocampo à Bunia, je cite, « Je suis content d'être ici et je sais bien ce qui se passe ici. » À une question sur la capacité de la Cour à assurer la stabilité dans la région, Moreno a souligné que la paix vient d'abord des gens et la Cour vient en concours, indique le journal. Enfin, terminons avec les dernières attaques des combattants de la LRA en province orientale. La tempête de tropisme note que la LRA continue à semer la désolation à Faradje. L'espoir de paix et de sécurité qu'a suscité l'opération phare des faits et armée ougandaise dans la région tend à s'évaporer quand on apprend ces derniers mois que ces forces négatives ont repris du service avec plus d'atrocités dans les territoires de Faradje et des Dungu.
Merci Kelly Kouté pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue que nous venons d'écouter. Emmanuel Moukadi, vous êtes secrétaire de rédaction au magazine international Loubila, c'est un mensuel paraissant à Kinshasa et distribué dans beaucoup de pays du monde. Comment appréciez-vous le traitement que la presse chinoise a fait de l'actualité de cette semaine?
Ça va. On a abordé pratiquement tous les faits saillants de la semaine. Je crois que il y avait une certaine prudence, c'est le décès plutôt du sénateur Jano Bemba. Et donc, ça va de soi que ce fait-là puisse dominer l'actualité. Globalement, il n'y a rien à redire.
Merci. Albert Kambalé, vous êtes correspondant de l'agence France Presse à Goma, au Nord Kivu. Et à Goma, où vous vous trouvez? Comment l'actualité a été analysée par la presse de la province du Nord Kivu?
L'actualité, d'après la revue de presse que nous venons de suivre, il a manqué dans cette actualité des attaques de FDLR, coalition FDLR, les milices Maïmaï qui ont attaqué cette semaine KCE, ils ont brûlé des maisons à Miriki, et ainsi que la récupération de quelques localités par les FARDC. Voilà ce que je peux ajouter à l'actualité qui a dominé le domaine de toute l'étendue de la République.
Oui, Innocent Kaboukala, vous êtes ici avec moi en studio. Vous êtes directeur des programmes et informations à Global Télévision. Albert Kambale dit que on a oublié de mentionner les attaques des FDLR au Nord Kivu. Et vous, à votre niveau, Issa Kinshasa, quelle est l'information que vous estimez importante, mais qui n'a pas été mentionnée dans la presse cette semaine?
Je dirais d'emblée que tout a été dit, d'autant plus qu'il n'y a pas eu beaucoup trop d'actualité pour cette semaine. Je crois que la principale information qui est restée pratiquement et qui a paralysé toute la ville, c'est la mort, la disparition pratiquement brutale du sénateur Jeannot Demba. Et je comprends pourquoi on y a consacré plus d'attention, mais peut-être un petit élément qu'on aurait pu ajouter, c'est cette manière-là qu'on a vue, hein, parce que bon, moi j'ai eu quand même le privilège d'être en contact avec les gens de Boussel, avec quelques poteaux également, pour voir comment le sénateur Demba a été à se recueillir devant la dépouille mortelle de son père, et c'était sous escorte. Bon, on n'a pas fait mention tellement, mais je crois que ça pouvait être aussi peut-être ajouté.
Ok, merci Innocent Kaboukala. Nous allons passer à notre premier thème de la tribune de ce soir. Arrivée de la dépouille mortelle de Jeannot Demba, le corps du sénateur Jeannot Demba Saolona est arrivé à Kinshasa hier en provenance de Bruxelles, la capitale de Belgique. Jeannot Demba Saolona est décédé le 2 juillet dernier d'un arrêt cardiaque à Bruxelles. Une messe a été dite en sa mémoire mercredi dernier à Bruxelles. Messe qui a connu la participation de son fils Jean-Pierre Demba, détenu à la Haye et qui a obtenu une autorisation pour y assister. Ce vendredi, le corps du sénateur était exposé au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Et la dépouille mortelle arrive ce samedi à Guémena, où il sera inhumé lundi prochain. Albert Kambale, vous êtes au Nord Kivu, une de province qui a bénéficié des investissements du sénateur Jeannot Demba Saolona. Quel héritage économique ces mécènes lèguent à la nation congolaise?
Ce qu'il faut dire est que monsieur sénateur Jeannot Demba Saolona, sa mort, comme nous l'avons encore dit, c'était vraiment quelque chose de dur pour la population du Nord Kivu, surtout ceux de Beni et Koutembo, où le sénateur avait des investissements dans l'ENRA, une grande entreprise qui encadrait beaucoup de familles. Et là, sa disparition vraiment a touché la population, surtout de Beni, où vraiment, à cause de ce investissement, la population vivait mieux, les parents pouvaient vite venir au secours, pouvaient subvenir aux besoins des familles. Alors, la disparition, comme vous le savez, en Afrique, quand un monument est parti ou quand quelqu'un est mort, s'il était lui-même patron, où il y avait des entrepreneurs, où il avait des gens qui surveillaient cette activité économique, et ce que l'on constate, c'est qu'à sa disparition, tout ce qu'il avait commence à disparaître aussi progressivement. Et donc, c'est une grande perte pour la population de l'Est que de voir ce sénateur partir et tout son avoir, à ce que l'on a toujours constaté pour tant d'autres personnes qui l'ont précédé, disparaît petit à petit. Voilà un peu le regret qui est dans les chefs même des populations de l'Est et particulièrement du Nord Kivu.
Emmanuel Mukadi, Jeannot Demba a édifié sa fortune sur l'agriculture. Il a été un grand producteur d'ananas, d'huile, de café, de mangue, et ainsi de suite. Et, comme pour dire qu'il n'y a pas que les minerais qui procurent la richesse.
Oui, tout à fait. Je crois que ce que nous devons retenir le plus de ces grands messieurs qui viennent de tirer sa révérence, c'est ce côté-là, self-made man. C'est-à-dire que le plus grand héritage que les Congolais, particulièrement les opérateurs économiques, peuvent retenir de cet homme, c'est qu'on peut partir de nulle part et atteindre le pic dans les affaires. Et ça, nous devons absolument retenir. Mais aussi, tel que vous l'avez dit, donc j'adhère à ce point de vue-là, qu'il n'y a pas que les minéraux qui sont pratiquement des fonds d'or. Et l'agriculture est un secteur qu'on qualifie de secteur primaire. Et je crois que M. Jeannot Demba sera des et à ce propos, la foi tenue sous l'impulsion du ministre de l'Agriculture, Son Excellence M. Norbert Basségnézi, je crois que cela va encore réveiller cet appétit-là d'investir dans l'agriculture, parce que
toutes les grandes puissances ont d'abord eu l'agriculture comme rampe de lancement. En Angleterre, on a parlé de la révolution verte, etc. Et notre pays a beaucoup d'hectares qui sont inexploités. Et donc, l'agriculture doit être au cœur des préoccupations des investissements dans le secteur économique. L'état de M. Jeannot Bemba est un cas assez éloquent, et cela, nous l'espérons en tout cas, fera des émissions, notamment le café, le fruit, j'en passe des meilleurs.
Merci Innocent Kaboukala. Jeannot Bemba a investi dans chaque province de la République démocratique du Congo et donc il a rendu d'énormes services à la nation en créant des emplois. N'est-ce pas un exemple à suivre pour tous les compatriotes qui peuvent détenir des moyens financiers considérables?
C'est un très bel exemple. Un très bel exemple, et cela d'ailleurs comme pour paraphraser quelqu'un qui disait, c'est une marque de l'unité qu'on est en train de perdre un peu hein, pour notre pays, parce qu'en fait, s'il a réussi à le faire, c'est parce qu'à l'époque, on parlait de l'unité de notre pays. Et donc, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de déchirement, il n'y avait pas de différenciation des peuples, tout le monde se considérait comme, à l'époque, on parlait du Zaïre, donc c'était des Zaïrois, et aujourd'hui, Congolais. Et donc, ce sentiment-là qu'il animait, a fait que justement, il a pu contenir tout ce qui pouvait peut-être le frustrer, dire que voilà, je vais investir au Katanga, c'est pas chez moi, ou que je vais investir au Kasaï. Et bien, il s'est dit, bon voilà, c'est notre pays, c'est le Zaïre, c'est le Congo, donc je peux investir partout où je peux, je me sens à l'aise. Et donc, en faisant cela, c'était un grand bien qu'il faisait à la population de son pays. Et pour cela, vous avez entendu mes deux confrères le dire, et personne ne peut vraiment oublier ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la frustration, c'est en fait quelque chose qui se vérifie au milieu de ce grand du personnel qu'il employait, parce que maintenant qu'il est parti, on se pose toujours cette question là de comment va être faite la suite.
Et est-ce que selon vous, Innocent Kaboukala, cette disparition pourrait avoir de l'influence sur sa formation politique qu'elle est le MSC?
Bon, il y a lieu d'entrevoir cet aspect de problème, mais à ce que je sache, lui, il n'est pas le leader du MLC, il est membre, il est cadre au MLC, bien sûr qu'il est influent, il est père biologique du leader de ce mouvement, mais ça ne veut pas dire que en tant que père biologique, il y aurait nécessairement une influence considérable, mais il faut quand même craindre, pour autant que maintenant que le leader de ce mouvement est en détention, il n'est pas encore libéré, on ne sait pas quand est-ce que cela pourra être possible, et si cela pourra prendre beaucoup plus de temps, et que lui, qui vient de disparaître, qui pourrait peut-être servir en tant que sage, et surtout qu'il est, et qu'on lui reconnaît cela, et il disparaît, est-ce qu'on peut encore espérer grand-chose en ce qui concerne le trait d'union entre les membres qui vont rester pour essayer de maintenir le mouvement? Ce sont des questions qui peuvent se poser, cela pourrait arriver, mais alors il faut dire que si tout le temps qu'il était là, il a été sage aux côtés de tous ceux qui sont maintenant là vivants et qu'ils auraient retiré quelque chose de lui, ce serait possible que cette formation se maintienne. Mais il y a quand même un peu de peur dans le ventre en ce qui concerne l'avenir du MSC.
Oui, Albert Kambalé, est-ce que vous pensez que c'est la disparition du sénateur Jeannot Bemba pourrait avoir des influences sur le MSC?
Je ne pense pas qu'il y aura des influences sur les MLC parce que il y a tant de cadres au sein du MLC. Et bien sûr, il y aura une petite influence par le fait que il y a même certains témoignages qui disent, qui renseignent que Jeannot Bemba Saolona était le conciliateur, les rassembleurs, il essayait un peu de rassembler les divergences au sein du mouvement, bien sûr, mais cela ne va pas dire qu'il y aura une très très grande influence. Je pense que le MLC étant un parti politique et qui n'est pas un parti politique familial va continuer à garder sa ligne ou va continuer à garder sa bataille, et je ne pense pas qu'il y aura une grande influence, bien sûr une petite influence parce que c'est l'être humain, peut-être quelqu'un qui participait à des décisions du parti, mais ça ne sera pas très très grand.
Oui, Emmanuel Moukadi, est-ce que vous partagez le même point de vue que Innocent Kaboukala et Albert Kambalé?
Oui, dans le fond, il y a des craintes à voir. M. Jeannot Bemba, c'était le père biologique du sénateur Bemba. Ce dernier était hier. À
Alors, M. Jacquier, le magistrat de ce étant en prison, il y a quelques craintes tout de même à avoir, parce que M. Jeannot Bemba représentait pratiquement le pont entre M. Bemba arrêté là-bas à La Haye et le parti resté ici. Mais je crois que avec le secrétaire général François Mamba, il va essayer de calmer les ardeurs. Je pense pas, à mon humble avis, que ça manque d'avoir une incidence particulière sur l'avenir de ce grand parti politique qui devient pratiquement un parti populaire. Alors, en un mot, j'adhère pratiquement au point de vue de mon conseil innocent et que plus de peur que de mal. Je pense pas qu'il y ait péril en demeure. Je crois que le parti fonctionne avec des organes bien établis et que sa mort n'a aucune corrélation avec le fonctionnement normal du parti.
Merci Emmanuel Moukadi. C'est avec vous que nous passons à notre deuxième thème de cette tribune de la presse. Poursuite du séjour du procureur de la Cour pénale internationale Moreno Ocampo en Ituri, en province orientale. Luis Moreno Ocampo est à son troisième jour dans cette partie du pays. Hier et jeudi, il a rencontré les délégués des communautés, à savoir la communauté ethnique Ema, l'Hindou et l'Union nationale pour le développement de l'Ituri. C'est une organisation qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri. On écoute les procureurs de la CPI qui parlent de l'objet de sa visite. Luis Moreno Ocampo est au micro de Jean-Paul Batila.
Yes, I'm very happy to be here.
Je suis très content d'être là.
And I came here
to, je suis venu ici
to see people from Bunia.
C'est de voir la population de Bunia.
To listen to them.
Et les écouter.
I'm working for them.
Je travaille pour eux.
And now I'd like to understand how we can help them.
Et maintenant, je souhaite comprendre comment les aider.
How to be sure we are not going back to the past.
C'est rassurer que nous ne faisons pas un pas en arrière.
And they are receiving the assistance and the help they need.
Qu'ils reçoivent l'assistance qu'il faut.
We are finishing one of the cases and we are starting to work to the other case.
Nous sommes en train de terminer le premier procès et nous allons aborder le deuxième bientôt.
And it's a good time for me to be here.
Donc c'est un bon moment pour moi d'être là.
We are not discussing the cases here.
Nous n'allons pas discuter les cas.
We are listening people.
Nous sommes là juste pour écouter les gens.
Le procureur de la CPI se trouve ce vendredi à Bogoro et à Zoumbé. Ces villages ont été le théâtre des crimes pour lesquels sont poursuivis Mathieu Gundolo et Germain Katanga à la CPI. Inosa Kabukala, comment analysez-vous cette visite de M. Moreno en Ituri?
Bon, il le dit lui-même, hein, il est en visite de travail, principalement pour écouter des gens. Et bon, moi, lorsque j'essaie d'analyser froidement, je vois plutôt un monsieur qui voudrait se rassurer davantage des éléments des charges retenues hein, comme grief hein, contre toutes les personnalités qui sont là, notamment Mathieu Gojulou et Germain Katanga et bien sûr Thomas Lubanga. Vous savez que dans cette partie, il y a eu quand même beaucoup d'atrocités et que son passage à ce moment-là, lorsqu'il dit qu'il vient écouter cette population, passe quelque peu pour une consolation hein, par rapport à cette population-là qui s'est dit bon, finalement, il faudrait qu'il y ait justice, que justice soit faite. Et donc, ça les rassure un tout petit peu. Mais à un autre niveau, lorsqu'on sent qu'il parle comme tel, on a comme l'impression qu'il y a une idée, une connotation un peu politique. C'est là que je ne suis pas très, très, très d'accord. Bon,
parce qu'il y a une connotation politique,
oui,
vous voulez dire par là.
Oui, donc ça veut dire, il dit que il vient vérifier un peu si ils sont assistés, est-ce que tout se passe bien dans cette partie. Ça veut dire que c'est une population meurtrie, donc il se présente là comme quelqu'un qui vient, qui vole un peu au secours d'une population plutôt en misère, hein, dans une certaine mesure. À ce moment-là, je me dis, mais est-ce qu'il devient humanitaire dans une certaine mesure? Je me pose un peu des petites questions comme ça. Bon, voyons voir, mais sinon, globalement, on peut dire que son passage peut rassurer dans une certaine mesure les populations.
Mais je pense qu'il y avait quand même opportunité pour Moreno de se déplacer pour venir en Ituri, échanger avec les populations qui par toutes les différentes guerres qui ont eu lieu dans cette partie du pays.
Opportunité dans le sens qu'il faut essayer de consolider la paix, il faut essayer de redonner de l'espoir dans cette, à cette population-là, oui. Là, je peux dire, Mais bon, je reste quand même un peu sur mes gardes, Guy Compagné.
Oui, Albert Kambale, vous êtes au Nord Kivu, une des provinces où beaucoup d'exactions ont été commises. Ne pensez-vous pas que qu'il aurait été souhaitable que le procureur Moreno passe aussi par là?
Oui, il a été vraiment souhaitable qu'il passe par là, et à la fin de parler, ses propos sont rassurants. Et rassurant dans quel sens? Il dit, j'ai écouté, et voilà. Et là même, à Pune, il a écouté les principales ethnies qui constituent les touristes. Et là, je me dis, c'est bien, et il devait lui-même se rendre compte de ce que les touristes a vécu. Il a été même dans ce village-là, c'est bien. Mais j'allais savoir, est-ce que son arrivée à Pune va contribuer à quelque chose de véridique ou à quelque chose qui va amener plus la lumière à des dossiers qu'il est en train de traiter à Ituri. Et je pense qu'il doit avoir des interlocuteurs valables, des gens sincères, des gens qui viendront parler sans complaisance. Et je pense que dès qu'il aura attendu tout le monde, et à son retour à la Cour pénale de la Haye, et je pense qu'il y aura des avancées significatives dans les griefs retenus aux miliciens de l'Ituri.
Oui, Emmanuel Moukadi, nous venons de vous recevoir dans ce studio. Vous étiez en ligne, mais là, vous venez d'arriver. Et dans l'émission Dialogue entre Congolais du 7 juillet dernier, un auditeur avait affirmé que le travail de ce pays est bon, mais il le qualifie de partial parce que, selon lui, la CPI s'occupe seulement des Africains. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Oui et non. Non, dans la mesure où le premier prévenu de la CPI n'était pas un Africain, c'était le défunt président Milosevic. Et donc, il n'est pas tout à fait vrai que d'affirmer que la CPI ne traite que les cas des Africains. Oui, parce que nous sentons qu'il y a une certaine partialité dans le traitement des dossiers liés à particulièrement aux Congolais. Il y a un peu une petite politisation entre guillemets dans le chef de M. Moreno. Bon, on va pas revenir sur le passé, on sait que M. Bemba était rebelle, etc. Beaucoup de juristes n'ont jamais compris le droit appliqué par ces pays-là. Et donc, M. Moreno est en Ituri. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Moi, je crois que c'est plus une opération de charme. Essayer un peu de donner un visage plus ou moins humain à cette cour tant décriée. Et il faut mentionner l'actualité par rapport au sommet de l'Union africaine où les chefs d'État, à la quasi-unanimité, ont désavoué la Cour pénale internationale et ont fait bloc. Ils ont promis qu'ils ne vont pas accorder leur collaboration à ces pays-là. Il y a le Tchad qui a essayé un peu de se démarquer de cette position-là, pour des raisons évidentes, parce que le mobile...
Ainsi que le Botswana.
Le Botswana, oui, en deuxième lieu. Le Tchad, c'est pour des raisons évidentes, parce qu'en prenant cette décision-là, à vrai dire, les chefs de l'État africain voulaient protéger leur homologue Béchir. Et tout le monde sait, il est de l'autorité publique, que le Tchad et le Soudan n'entretiennent pas des relations qui sont saines. Et c'est pour cette raison-là que le Tchad a essayé un peu de prendre distance de cette décision-là. Donc je crois qu'il y a finalement à redire dans la méthode appliquée par ces pays-là, où la majorité de prisonniers sont congolais. Je crois que ça peut tout de même frustrer. Ça peut tout de même frustrer. Et il y a à boire et à manger dans la méthode appliquée par cette Cour pénale internationale.
Oui, nous rappelons que la juridiction qui avait jugé l'ex-président de Yougoslavie s'appelait Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Innocent Kabukala, et je reviens à vous. L'arrivée de Moreno ne peut-elle pas être une occasion pour nous, Congolais, pour pouvoir réfléchir sur la réforme de la justice et accélérer cette réforme?
Je crois oui. Là, j'appuie parce que, en fait, c'est ce que tentait de dire aussi Emmanuel tout à l'heure. Là. Et si nous, notre justice fonctionne normalement, ça veut dire que nous avons la possibilité de traiter nos cas à nous et faire respecter les droits des citoyens. Et à ce moment-là, les cas pour lesquels la CPI est en train d'intervenir dans notre pays, vont cesser. Et par conséquent, nous n'aurons pas à applaudir comme je l'entends là, lorsque Luis Moreno Campo arrive au Congo démocratique. Et donc, si notre justice fonctionne normalement, je ne vois pas. Donc je crois que moi, son arrivée devait plutôt permettre aux Congolais de réfléchir pour refaire. Bon, est-ce que je suis en train de rejoindre quelque part le président de la République lorsqu'il parle de notre justice? Et bon, dans une certaine mesure, lorsque s'il faut dans cette action-là accompagner le fait qu'il faut aller dans cette logique-là jusqu'au bout, c'est-à-dire atteindre le plus bon niveau de notre justice par des réformes, par des moyens qu'il faut mettre là-dedans pour que finalement nos magistrats soient bien encadrés et bien entretenus. À ce moment-là, la réflexion tient.
Merci, c'est avec vous que nous passons à notre troisième thème de ce soir. Province orientale, nouvelles attaques des LRA mardi dernier dans la localité des Bayoulé, dans les Bas-Ouélé. Bilan, 80 personnes enlevées et les biens d'une chapelle catholique pillés. Les rebelles ougandais de la LRA ont de nouveau attaqué le district du Bayoulé mardi dernier à 4 du matin. Ils ont fait irruption dans la localité de Bayoulé, située à 55 km à l'est d'Ango et 32 km à l'ouest de Dakwa, en territoire d'Ango. Là, ces rebelles ont enlevé 80 personnes et ont pillé les biens d'une chapelle catholique. Le récit des événements avec Mgr Samuel Migodo, vicaire général du diocèse de Bondo. Il a été joint au téléphone par Aliana Alifanagama.
Ils ont pillé la chapelle, on supposait qu'ils pouvaient faire ces choses, mais ils ont été rassemblés pour des réunions de catéchistes, ils ont rassemblé, ils ont mis leur état-major de la résidence du chef de groupement, ils ont arrêté des gens qui s'amenaient là-bas, ils ont apporté avec eux environ 80 personnes, parce que là, on m'a dit qu'il y a 80 absents, et 3 catéchistes de notre église catholique à Bayoulé. Alors, nous avons reçu ce matin d'abord un appel téléphonique à partir du village, qui est situé à environ 60 km de là à vol d'oiseau, et puis le matin, nous avons appelé à la SONI d'Aqua, ainsi qu'Ango, qui nous ont confirmé les informations. Ils ont apporté leur bulletin, qu'ils doivent vivre au sein de la savane, mais ils ont pris la direction, malheureusement, vers Ango. Donc, on craint que d'ici au sein de la communauté d'Ango ne soit attaqué par eux.
Oui, Emmanuel Mukadi, le week-end dernier, la société civile des Dungu et les organisations humanitaires ont dressé les bilans des près de 60 attaques de la LRA entre mai et juin 2009. Et selon ces organisations, plus de 80 personnes ont été tuées et une cinquantaine de personnes enlevées. Comment avez-vous analysé cette situation dans votre rédaction
Lobila? Oui, au numéro 2, on a eu à évoquer cette épineuse question de la LRA. Il faut d'abord aussi préciser une chose, que la LRA n'est pas une armée congolaise. Elle vient, je crois, de
l'Ouganda.
De l'Ouganda. Oui. Et donc, la LRA s'assimile, Mutatis Mutandis, au FDLR. Ce sont des rébellions rwandaises, etc. Donc, ça ne peut que susciter des interrogations. On ne sait pas comprendre comment tant les FDLR que la LRA, ces soldats FDLR-là, ne savent pas comprendre comment on ne sait pas les démanteler, alors qu'il y a une forte présence aussi de la mission des Nations Unies au Congo, et qu'il y a aussi un arrêt qui est suspendu comme un couperet sur la tête de Joseph Kony, qui est au fait la figure de proue de la LRA. Et même, malheureusement, les messieurs courent toujours. On se souviendra qu'il y avait une action conjointe entre l'Ouganda, la RDC et le SPLA, l'armée du Sud-Soudan. Dans une certaine mesure, ces soldats avaient été plus ou moins anéantis, mais ils se sont éparpillés à travers le parc de Garamba notamment. C'est finalement une épine sous le pied de notre armée, un défi qui me paraît assez herculéen, mais ce n'est pas du tout illusoire que de mater cette rébellion qui continue à causer toujours des dégâts et la désolation dans les chefs de la paisible population de la province orientale.
Oui, Albert Kambale, l'opération conjointe FRDC, armée ougandaise et armée du Sud-Soudan, avait suscité de l'espoir quant au démantèlement de la LRA. Et cependant, on se rend compte aujourd'hui que les rebelles ougandais deviennent plus dangereux qu'il y a quelques mois. Peut-on attribuer cela à quoi?
Oui, mais posez-vous la question lors de ces opérations conjointes, quels étaient les objectifs entre FARDC, armée ougandaise et l'armée du Sud-Soudan? C'est de la même manière qui s'est fait même au Kivu. Donc vous trouvez que l'objectif, c'est d'aller démanteler seulement les éparpillés, mais dans l'entretemps, vous les éparpillez, mais dans l'entretemps, ils sont là. C'est vraiment une nouvelle triste quand nous avons appris ça. Et quand vous savez, Ango, Bayoule, est-ce qu'il y a d'abord une base onusienne là-bas, même une compagnie? Il n'y en a pas. Alors, ils sont arrivés à enlever les gens. Où était notre armée? Pour dire que l'armée n'est pas déployée dans ce secteur. Donc, après les opérations conjointes, tout le monde s'est réjoui, voilà, c'est une réussite, c'est bien. Oui, c'était une réussite. Mais là, ces rebelles-là font ils nous opèrent sous forme de représailles à la population. Et c'est de la même manière que cela se fait même au nord et sud du Kivu avec les FDLR. Dans ce village-là, que nous venons de citer tout à l'heure, là, les gens, quand c'est le matin, ils viennent voir à quoi ressemble le village, et vers 18h-19h, ils vont dans la brousse. Donc c'est facilement simple pour les rebelles d'enlever toute la population. Et donc, il faut que notre armée essaie de voir qu'est-ce qu'il faut pour le moment pour démanteler totalement, si pas totalement, pour écarter les dangers de ces rebelles à la population, qui est de dire, bon voilà, on a atteint l'objectif, nous avons démantelé ceci et cela, et voilà aujourd'hui, et on veut embraser tout à la fois. Il y a ce même problème au nord et au sud qui vous lève de l'air. On engage des opérations, qu'il y a deux, et au même moment, on veut aussi neutraliser les rebelles de la LRA. Mais ça ne sera pas possible que le gouvernement cherche une stratégie à protéger la population et petit à petit qu'on aille à la logique d'écarter ou mieux démanteler les réseaux et chasser de loin ou du territoire national tous ces rebelles qui sont entrés dans des milliers de populations.
Oui, Innocent Kaboukala, Albert Kambale affirme que la LRA est en train de faire des opérations de représailles contre la population. Et pensez-vous qu'après toutes les opérations qui sont menées dans la traque de ces mouvements rebelles, et pensez-vous qu'il faut, après ces opérations, mettre en place des mécanismes pour protéger la population civile?
Il faut mettre d'autres mécanismes en place pour pouvoir protéger ces civils-là. C'est simplement parce que c'était une méthode forte hein, qu'on a utilisée. C'est cette manière-là de venir disperser et puis on dit bon voilà c'était une opération conjointe entre nos deux armées. Vous savez ces gens qui sont là les rebelles de LRA, ils sont là depuis plusieurs années. Et cela est déjà devenu dans une certaine mesure leur territoire. Ils vivent là-bas. Il y a des naissances. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils estiment que là, ils sont en insécurité. Et voilà. Pourquoi? Parce que là, chez eux, on se dit, donc, s'ils venaient ici, ils viennent mettre en danger le pouvoir établi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le pourchasser. Et au nom de la paix, nous acceptons parce que nous avons dit, nous voulons aussi avoir une paix dans cette partie de la région. C'est un mauvais choix.
Pourquoi un mauvais choix?
C'est un mauvais choix. Tout simplement parce que on ne peut pas demander aux gens qui sont frustrés chez eux, de rentrer de cette manière-là. Parce que quand ils rentrent, c'est la prison. Quand ils rentrent, c'est la mort. Ils ne peuvent pas accepter. Qui peut accepter d'aller mourir?
Certainement, vous avez analysé cette question dans votre rédaction à Global et Télévision.
Oui.
Et après, analyse, quelles sont les propositions que vous faites pour solutionner une fois pour toutes ces problèmes?
Oui, au niveau de notre rédaction, nous sommes tombés d'accord sur un principe. Et nous faisons une comparaison, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais nous disons que la comparaison peut nous donner une lumière. Nous pensons que la République démocratique du Congo a eu un courage exceptionnel en acceptant de faire ce qu'on appelait le dialogue intercongolais. Même si nous avons encore quelques petits problèmes à la suite de ce dialogue intercongolais, mais il faut dire que c'était un acte louable. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont réussi à se regarder au moins une fois dans les yeux pour se dire des vérités. C'est ce qu'il faut faire avec les pays qui nous entourent, les pays qui ont des rébellions. C'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue inter-rwandais, il faut qu'il y ait un dialogue inter-ougandais. Comme ça, ils peuvent se parler eux aussi, et ils peuvent sortir dans leur cœur ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils reprochent au pouvoir établi dans ces pays respectifs. Et à partir de là, on peut réellement rêver la paix. Sans le faire, c'est difficile. Ils vont faire cette opération, ils ont fait déjà cette opération, elle montre ses limites, et ils vont tenter de faire encore par la force, ça n'ira pas. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais au moins les preuves sont là. Mais si ils réussissent à se parler entre eux, parce qu'à ce moment-là, l'inquiétude va être dissipée. Je cite un professeur, il est sénateur, comme ça, lors de l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution que nous avons aujourd'hui, et pour convaincre un peu les parlementaires, donc les sénateurs à l'époque aussi, parce que même maintenant des sénateurs, c'était pendant la transition, il disait, le plus grand problème pour des gens, pour des dirigeants aujourd'hui, africains, lorsqu'ils refusent de quitter le pouvoir, c'est parce qu'il y a toujours une inquiétude qui plane. Parce qu'on se dit, bon, après moi, après tous les méfaits qu'on a pu causer, après toutes les tueries, toutes les choses mauvaises qui ont été constatées, et qu'est-ce que je vais devenir si je ne suis plus président aujourd'hui? Qui va me protéger? Oui, il y a cette inquiétude-là. Alors, il faut trouver des mécanismes plutôt qui rassurent. C'est ainsi que, par exemple, on l'a vu dans le système 1+4, on a dit, bon, on va prendre en charge quand même les 4 vice-présidents. Ex-vice-président. Il faut les prendre en charge, il y aura quand même des dotations, ainsi de suite. Ce sont des moyens pour essayer d'étouffer des tentatives d'aller en rébellion pour essayer de se réarmer et puis remettre encore en cause la paix chèrement acquise. Donc je pense que le vrai problème, c'est celui-là. C'est comme ça que nous, au niveau de Global Télévision, nous avons pensé que parler en termes d'un dialogue inter-rwandais, un dialogue inter-ougandais, résoudrait la question, et je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut le faire.
Oui, Emmanuel Mukadi, pensez-vous que, comme le dit Innocent Kabukala, qu'il faut promouvoir un dialogue inter-ougandais pour solutionner de manière adéquate ces problèmes?
Absolument, absolument. Le dialogue doit être l'arme que les pouvoirs établis dans tous les pays du monde doivent utiliser, notamment en termes de contestation sociale, de fronde sociale, et même en cas de rébellion dans les pays respectifs. Donc j'adhère parfaitement à l'idée de mon confrère Innocent. Il faut absolument le dialogue. La communauté internationale avait jadis imposé un dialogue inter-congolais aux Congolais, et nous avons été des élèves dociles. Nous avons eu à organiser ce dialogue qui a accouché aujourd'hui la Troisième République. C'est du dialogue, nous sommes passés à la transition, de la transition aux élections, bien qu'il y ait eu de soubresauts, mais ce soubresaut avait été bien géré par les dirigeants politiques. Il y a eu un effort de dépassement pour accepter la victoire de tous les candidats à tous les échelons au niveau des élections. Et je crois que cette même logique doit s'appliquer aussi auprès de nos voisins. Le dialogue, c'est pratiquement la voie obligée. Au cas contraire, c'est le Congo qui va commencer à subir les dégâts collatéraux du dialogue des sourds entre politiciens des pays voisins. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc le dialogue, à mon humble avis, c'est la voie obligée pour essayer d'apporter des solutions durables et pérennes auprès des pays voisins.
Oui, Albert Kambalé, Emmanuel Mukadi et Innocent Kabukala prônent comme solution à ces problèmes un dialogue inter-ougandais. Mais avant que l'on arrive à cela, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, au Congo? Comment est-ce que nous pouvons réorganiser les choses?
Oui, merci. Avant d'arriver à des solutions politiques des pays voisins, nous, d'abord, au Congo, nous devons chercher, nos dirigeants doivent chercher des mécanismes pour protéger la population. Qu'est-ce que ces mécanismes? C'est comme aujourd'hui, le gouvernement qui a une armée, d'ailleurs une armée qui est forte aujourd'hui, parce que j'ai participé à plus d'une opération militaire menée par les Sardiniens, ils doivent changer de stratégie et voir comment ils vont sécuriser la population, mener les opérations, fixer d'autres objectifs pour démanteler les réseaux de l'ERA, pour démanteler les réseaux FDLR. Et après, déployer des unités de défense dans tous les villages possibles, parce que c'est pas tout le Congo qui a perturbation. Il n'y a que l'Est, déployer dans ces villages-là des unités pour protéger la population et afin poursuivre maintenant l'aspect politique, l'aspect dialogue qui réclame à corps et à cri tous les rebelles qui se réfugient dans notre pays et particulièrement à l'est de la RDC.
Oui, Innocent Kabukala n'est-ce pas être d'accord avec vous, Innocent Kabukala?
Je suis tout à fait d'accord avec Albert Tambalé. Non, on ne peut pas dire qu'il faut qu'on revienne au Congo pour trouver des solutions, d'abord par rapport à nous organiser autrement. Les objectifs ont été fixés dans les deux opérations, que ce soit dans la partie orientale ou dans les deux Kivu. Mais les objectifs ont été fixés, c'est pas pour rien, il y a eu des débaptisations, on a dénommé ces opérations-là. On a dit par exemple, pour prendre le cas du Sud Kivu, on parle de ces opérations qu'il y a deux, il y avait un objectif, c'était clairement défini. Donc il ne faudrait pas qu'on dise tout simplement, il faut définir des autres objectifs pour que finalement les gens soient sécurisés. Non, c'est clair, les Congolais ont déjà compris. D'abord, j'ai dit à mon confrère que nous n'avons pas du tout une armée forte comme il est en train de le dire. Notre armée est encore fragile.
Mais il faut reconnaître que c'est une armée qui est dans une phase des reconstitutions et des réformes.
Mais tout à fait, je suis d'accord avec vous. Alors, dans une armée qui est en train de se refaire, on ne peut pas dire qu'elle est forte, elle n'est pas encore arrivée. Et donc, pour ça, il ne faut pas dire, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas dire qu'il faudrait compter avec cette armée pour finalement arriver à sécuriser, trouver des objectifs, je ne sais pas lesquels, pour que finalement, si vous non, ce qu'il faut, c'est passer par des solutions politiques. Et la solution politique, c'est que, de la même manière, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, de la manière qu'on nous a imposé un dialogue intercongolais, on peut imposer ce dialogue-là aux Rwandais. On peut imposer ce dialogue-là aux Ougandais et ils vont le faire. Et ils ne sont pas aussi puissants qu'on puisse imaginer par rapport à l'ensemble de la communauté internationale. Et d'ailleurs, rien que c'est là que je rejoins certains qui disent que la mission onusienne au Congo peut-être dans une certaine mesure peut revoir sa mission, au lieu que ce soit seulement une mission de maintien de paix, mais elle peut aussi être transformée en mission d'imposition de cette paix pratiquement en attaquant ces genres de situations.
Mais je rappelle qu'elle a mon nuque appuyé sur le plan logistique les RDC.
Mais ça, c'est une mission qu'on a donnée de façon spontanée par rapport aux opérations actuelles, mais la mission première, principalement, on sait que c'est une mission de maintien de paix. Et donc, si on transforme cela radicalement, je crois que ce sera une autre chose.
Et votre point de vue, Emmanuel Moukadi?
Oui, mon point de vue va dans la droite ligne du point de vue du confrère Innocent. Il ne faut pas non plus se leurrer, croire que notre armée est une armée apte, une armée véritablement républicaine, apte à défendre jusqu'à la dernière énergie notre pays. Il y a des efforts encore à mener, il y a l'impunité à combattre au sein de l'armée, la solde des militaires doit effectivement arriver aux soldats, donc il y a un tas de problèmes au sein de notre armée à résoudre pour que cette armée devienne effectivement une puissance de feu.
Oui. Albert Kambalé, votre point de vue par rapport à cette question?
Oui, je m'inscris en faux dans tout ce que disent mes deux confrères. Je ne dis pas que notre armée est véritablement forte, mais j'ai dû participer aux affrontements de notre armée depuis 2006 jusqu'à 2008, fin 2008. Mais je rappelle que nous avons une armée, il ne manque que de petites choses, et c'est là, c'est la politique même des dirigeants de cette armée.
Quand vous dites qu'il ne manque que de petites choses, quelles sont ces petites choses?
Ce qui manque, c'est la logistique, les sociales des militaires, mais je vous dis, ces jeunes militaires ou nos FARDC, ce sont des hommes qui sont... Là, tout à l'heure, là, je participe à cette émission, j'ai viens d'une opération où ils ont récupéré Bounia, Tengue, Mwanga et Mbengi. J'ai été avec les FARDC, j'ai vu de quelle manière ils sont forts. Donc, je ne dis pas qu'ils sont vraiment... Il y a bien sûr des petites choses, notamment la logistique, les sociales, la solde des militaires. Et dès que toutes ces choses-là seront faites, je vous assure, il faut compter au FARDC. Ce qui faisait que l'armée soit faible, c'était la politique du pays, c'était la politique de nos voisins, mais l'armée à soi, moi personnellement, de ce que j'ai vu, je dois compter au FARDC.
Merci, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Eddy Marquis qui était à la technique et Kéline Couté qui a réalisé pour vous cette émission. Il était assisté d'Alain Irung sous la coordination de Martin Seboujangwe. En leur nom, Guy Maté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Okapi.
Thank you.